21 février 1984, théologie fondamentale sur la sacramentalité, Père Marie-Dominique Philippe Rimond. On pose une petite question à propos de la création et de la transsubstantiation. Même si la transsubstantiation n'est pas une création, peut-on quand même faire des rapprochements? Oui, des rapprochements pour bien montrer la diversité. La création se termine à la réalité. La transsubstantiation demeure à l'intérieur de l'intentionnalité sacramentelle. Là, une très grosse différence. Il faut tout de suite souligner. À ce point de vue-là, ça fait tout de suite autre. Hein. Vous voyez bien, l'acte créateur de Dieu se termine à une réalité qui subsiste. Puisque c'est l'essai, ratio esse, qui est la raison formelle de l'acte créateur de Dieu. La création se termine à l'essai. Tandis qu'au contraire, le mystère de la transsubstantiation, la première fois où le mystère de la transsubstantiation s'est faite, c'est Jésus, législateur. C'est Jésus, législateur, qui fait le sacrement. Étant donné que la présence du Christ dans l'Eucharistie, à partir de la consécration, c'est signum et res et signum. Tandis que la présence mystique, c'est restantum. Bien comprendre ce point de vue-là. Le sacrement, hein, comprenez, le sacrement est un signe. Le sacrement est un instrument. Cause efficace de grâce. Hein. Cause efficace de grâce, pas cause première, mais cause efficace de grâce. Bon. Le sacrement a un effet. L'effet du sacrement, c'est la grâce. Ça, c'est res. C'est une réalité, la grâce. Et il y a l'effet propre du sacrement qui est le signe, la res. C'est la présence eucharistique qui n'est pas encore la res tantum. Vous comprenez la chose. La présence eucharistique est à l'intérieur de l'intentionnalité du sacrement. Il a comme fruit de nous unir davantage au Christ, présence mystique. Par l'Eucharistie, je suis davantage uni au Christ. Par l'Eucharistie, le fruit, on verra le fruit du sacrement après, par l'Eucharistie, je suis davantage uni au Christ. Donc, l'effet propre du sacrement, l'effet propre de la transsubstantiation. Quand Jésus a prononcé les paroles, il a réalisé ce mystère de la transsubstantiation. Il a réalisé le mystère du sacrement, c'est-à-dire de la présence sacramentelle du Christ, de lui-même. Présent per modum substantiae. C'est lui qui a réalisé ça comme cause instrumentale, puisqu'il n'était pas cause principal, c'était le Père, c'était la très sainte Trinité qui est cause principale, hein. Faut pas l'oublier en définitive, hein. Mais il était comme cause instrumentale et comme législateur, une cause instrumentale d'un ordre tout à fait particulier puisque législateur, ayant reçu du Père toute autorité. Et il est quand même cause instrumentale puisque le sacrement est cause de la grâce et la cause principale de la grâce, c'est le point de vue de... Alors, vous voyez, il y a là une chose curieuse, ce serait du reste intéressant à étudier. Il est cause instrumentale de la grâce à travers le sacrement, et je crois qu'on peut dire qu'il est cause seconde de l'institution même du sacrement comme législateur. Donc, la question du signum, le signe, c'est dans sa sagesse de législateur qu'il a choisi le pain et le vin, pas comme instrument. Mais comme instrument, il a fait que ce signe soit porteur de grâce. Mais comme c'est complexe, hein, si je veux vraiment analyser, parce que le Christ n'est pas purement d'instrument. C'est là la complexité. Il a reçu du Père toute autorité. Donc il est législateur. Un législateur n'est pas un instrument. Autrement, ce serait pas un législateur. Donc il est législateur. En tant que législateur, il est cause seconde. Il est législateur en tant qu'il choisit le pain et le vin. Donc il est législateur au niveau du signe. Et il est instrument au niveau que ce signe est porteur de grâce. Donc, par ce signe, faire que ce signe va être porteur de grâce, va être un instrument qui va continuer sa causalité propre. Parce que je crois qu'on ne peut pas dire que le Christ est cause seconde des sacrements. Il est cause seconde des sacrements comme législateur, donc au niveau du signe, pas au niveau de l'instrumentalité. Vous voyez bien la chose. Hein? Et c'est important, ça va être important pour saisir ce que c'est que le sacerdoce. Et c'est peut-être une distinction qu'on ne fait peut-être pas et qui fait qu'alors il y a des choses qu'on ne voit pas. Parce qu'au fond, comme signe, c'est mystère, il a choisi. Le Christ a choisi. Il a choisi le pain et le vin comme signe. Et il a dit les paroles, mais les paroles consécratoires, il les a dit comme l'envoyé du Père, comme instrument. Puisque ces paroles ont eu cette efficacité divine de la toute-puissance de Dieu. Quand le Christ fait un miracle, il est instrument. Il n'est pas cause principale. C'est la toute-puissance de Dieu qui est engagée dedans. Donc à la fois, et c'est justement ce qui caractérise être instrument animé. Il est à la fois l'ami et à la fois l'instrument. Il est donc l'ami en tant qu'il est législateur, le Père lui remet toute autorité. Et donc il fait œuvre de sagesse. Les sacrements sont œuvre de sagesse. Œuvre de sagesse divine. Il choisit le pain et le vin. Il choisit le pain et le vin et ce signe qui va devenir un instrument. Donc le Christ va choisir le pain et le vin et Jésus dit ses paroles en tant qu'il est l'envoyé du Père et ses paroles ont une valeur d'efficacité pour réaliser le mystère de la transsubstantiation, c'est-à-dire que les espèces eucharistiques du pain et du vin demeure, mais la substance du pain est convertie dans la substance du corps du Christ. Donc on passe d'une substance à une autre substance. Conversion totale. Puisque c'est au niveau de la substance. Donc c'est au niveau de l'être. Alors, parce que c'est au niveau de l'être, on dira qu'il y a quelque chose d'analogue avec la création. Dans ce sens-là. Parce que c'est au niveau de l'être, il y a quelque chose d'analogue à la création. Tout à fait d'accord. Mais la très grosse différence, c'est que d'abord, ce n'est pas ex nihilo, c'est à partir du pain. Et c'est vraiment la conversion du pain, la conversion de la substance du pain dans la substance du corps du Christ, qui est le mystère de la transsubstantiation. Et que d'autre part, il faut comprendre que cette présence du Christ, per modum substantiae, ne se fait pas selon le mode de la réalité tel que le Christ est dans le ciel, c'est un mode sacramentel. Donc il y a deux diversités par rapport à la création. Alors qu'on fasse la comparaison, très bien, puisque de fait, c'est une action qui implique la toute-puissance de Dieu. Elle agit sur l'être. Dieu seul agit sur l'être. Dieu n'agit pas de l'extérieur, il agit de l'intérieur. Extérieurement, on ne voit rien. Et donc, tout est action intérieure, comme Dieu seul peut agir. Et extérieurement, rien n'est changé. Donc, les espèces eucharistiques demeurent. Voilà la continuité. Le sujet qui continue, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la matière. Ce n'est pas la matière première, ce n'est pas la substance, il n'y a pas de sujet d'une certaine manière. Les espèces eucharistiques tiennent lieu du sujet pour faire l'unité, mais tiennent lieu du sujet, ils ne sont pas au sens strict sujet. Ce C'est pour ça que le mode de la transsubstantiation est unique. Vous n'avez pas d'analogue. Vous pouvez donner des analogies, si vous voulez, mais vous n'avez pas d'analogue. Vous êtes en face d'une action propre au sacerdoce du Christ, comme législateur. Il réalise cette transsubstantiation pour se donner sous le mode de l'aliment. Pour être donné sous le mode de l'aliment. Pour être donné réellement, per modum substantiae, donc par mode de substance, il se donne réellement, mais il se donne sous l'apparence des espèces eucharistiques. Voilà, je crois, ce qu'on peut dire, si on veut faire la comparaison. Et la présence du Christ, c'est signe et res, puisque le signe des espèces eucharistiques demeure, et res, la réalité changée, c'est le corps du Christ. Et la restantum, ce sera la grâce, la présence du Christ en nous, présence mystique du Christ en nous. Normalement, une présence d'amour plus grande grâce à l'Eucharistie. Vous voyez ? Alors, signum, signum et res, restantum. Hein. Il faut toujours s'habituer à ça. C'est ça, c'est la manière dont la théologie a précisé. Vous voyez ? Le signe, signum tantum, hein. Le signe, c'est les oblats, le pain et le vin, c'est le signe. Le signe et la res, c'est la présence eucharistique, c'est Jésus présent dans, à travers les espèces eucharistiques. Et le signe, la res tantum, c'est la grâce. Oui, bien ça, c'est pour le sacrement étant un signe. Ce sacrement a comme effet propre par le mystère de la transsubstantiation, par la toute-puissance du Christ comme législateur, de faire que ce signe reste le même à l'extérieur, mais la réalité du signe est totalement changée. Et c'est pour ça qu'il y a présence eucharistique du Christ. Présence à travers les apparences. Présence du corps du Christ. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler, comme l'ont fait certains, le point de vue du cœur eucharistique du Christ. Vous voyez comment il faut l'entendre. Hein? Le cœur eucharistique du Christ. J'ai prêché au Canada, disons, tout près de Québec, à une petite fondation qui date depuis, où la fondatrice est encore vivante, mais elle est d'un certain âge, puisqu'il y a 60 ans, je crois que c'est fondé, c'est les adoratrices du cœur eucharistique du Christ. Le cardinal Schepp à Rome, qui est le théologien du pape, il a un très grand amour du cœur eucharistique du Christ. On en a parlé une fois longuement. Alors, c'est très bien de voir ça à titre de dévotion, parce que le cœur eucharistique du Christ s'est ordonné au cœur du Christ qui prend possession de notre cœur. En réalité, par l'Eucharistie, notre cœur est changé dans le cœur du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et il y a donc une réalité. Alors, le cœur eucharistique du Christ, c'est au niveau du reste, du signum et d'ares. Je peux parler ça très bien, parce qu'il y a présent per modum substantiae. Donc per modum substantiae, c'est toute la substance du corps du Christ. La substance du corps du Christ qui nous est donnée par amour, en le symbolique du cœur exprime ce point de vue-là. Donc on peut le dire. Il faut tout simplement comprendre ce que ça veut dire. Alors, dans son traité des sacrements, Tertia Pars, question 65, article 3, saint Thomas dit « Sacramentum Eucharistiae est potissimum, inter alia sacramenta », nous étions partis de là, en disant que c'est le sacrement par excellence, et c'est celui que Jésus a fondé, au sens très très fort, « exeo codex ineo », continetur ipsus Christus substantialiter. Exactement ce que je viens de dire. Et c'est le concile de Trente. Il est présent per modum substantiae. Nous allons voir la conséquence. In aliis autem sacramentis, on le verra après, continetur quedam virtus instrumentalis, participata a Christo. Le Christ est le législateur des sacrements. En fondant le sacrement de l'Eucharistie, il se donne. tandis que par les autres sacrements, ce n'est pas lui qui se donne, mais il donne sa grâce. Alors c'est la virtus participator. Bon, j'espère que vous avez compris, il faut traduire. Hein, vous voulez traduire, pas de sûr. Hein. Le sacrement d'Eucharistie est potissimum. Vous comprenez ce que c'est potissimum, hein. Donc, c'est le premier, maxime étalé, hein, potissimum. C'est curieux, potissimum, hein, pas le plus puissant, mais quelque chose comme ça, hein, le plus grand entre tous les autres sacrements. Du fait que dans, en lui, est contenu le Christ lui-même, substantialitaire, per modum substantiae, par mode de substance, substantialitaire. Le concile précisera per modum substantiae, c'est exactement la même chose. Hein. Substantialitaire ou per modum substantiae, donc c'est par mode de substance. Dans les autres, au contraire, dans les autres sacrements, au contraire, est contenue une certaine vertu instrumentale participée du Christ. Pourriez-vous mieux expliciter cette différence? Pas mieux que saint Thomas, mais simplement expliciter un peu, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce que c'est le sacrement par excellence. C'est donc les sacrements, c'est la surabondance de l'amour. Pas au sens très très fort. C'est la surabondance de l'amour. En ce sens que les sacrements, comprenez bien ce que je veux dire, ce n'est pas la source première et propre de notre salut. La source première et propre de notre salut, c'est le Christ crucifié. C'est pour ça que seul est nécessaire. Les sacrements sont donc une surabondance d'amour. Ce qui est très important à comprendre, c'est une surabondance d'amour. Puisque ce n'est pas la cause propre et première du salut. La cause propre et première du salut, c'est le Christ. C'est donc une surabondance d'amour. Si le mystère de la croix n'avait pas été un mystère d'amour, et simplement un mystère de justice, on ne voit pas comment les sacrements auraient pu exister. Oui. Et ça, je crois que c'est important à comprendre, au point de vue théologique. C'est important à comprendre que si le sacrement, parce que ça fait comprendre l'opposition des protestants au sacrement. C'est toujours intéressant, il faut quand même répondre. En portait Thérèse SSC, hein. Le concile ne répond pas. Le concile de Trente réaffirme. Nous, nous prenons un peu plus de distance avec le centenaire de Luther. On peut donc essayer de comprendre, n'est-ce pas? Et comprendre comment il faut répondre. C'est que si Dieu a permis l'hérésie de Luther, c'est pour que nous comprenions mieux les sacrements. Autrement, Dieu n'aurait pas permis. C'est pour que nous comprenions mieux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre mieux? C'est que si vous vous placez dans une perspective de justice, pas royale, hein? Si vous vous placez dans une perspective de justice, vous ne comprendrez pas comment il peut y avoir une surabondance, puisque la perspective de justice est une perspective d'ordre strict. Hein? Toujours l'exemple qu'il faut prendre, hein? Vous n'avez jamais payé par surabondance vos impôts. Vous les avez payés, quand vous les avez payés, d'une façon stricte, hein, tout à fait stricte, et vous essayez de payer le moins possible, hein, en bonne justice. C'est normal. Hein. Donc, on fait de façon stricte. Vous ne dites pas, je rajoute ça par surabondance, 13 à la douzaine. Non, faites pas ça pour les impôts. Vous faites ça pour quelqu'un que vous connaissez bien, que vous aimez bien. Alors vous dormez très bien, alors vous avez 13 à la douzaine. Mais alors là, c'est autre chose, vous voyez. Mais vous ne faites pas ça pour les impôts. Moi, je n'ai jamais vu ça. Là, j'ai jamais vu ce point de vue-là. Je crois qu'on demanderait un collecteur d'impôts, il vous dirait qu'il n'a jamais rencontré ce point de vue-là. Parce que c'est l'anonymat de l'État, vous voyez. Hein? Alors on dit, oh, il nous en prend déjà assez, c'est pas la peine de venir donner plus. Alors bon, alors on voit très bien comment, si le mystère de la croix avait été en premier lieu un mystère de justice, Jésus serait mort une fois pour toutes. La Pax, une fois, ce fameux Pax de l'Épître aux Hébreux, hein, qui a été justement traduit par le point de vue de Luther, en disant, il est mort une fois, c'est tout. Vous ne parlez plus de sacrifice. Parce que parler d'un sacrifice, c'est diminuer l'efficacité du sacrifice de la croix. Si vous parlez du sacrifice et vous dites que les sacrements redonnent le sacrifice du Christ, mais c'est diminuer le sacrifice du Christ, puisque vous êtes obligé de dire qu'il doit se répéter constamment, constamment. Et donc vous retombez dans le point de vue de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait répéter le sacrifice. Parce que le sacrifice n'avait pas l'efficacité plénière et substantielle. Donc n'ayant pas l'efficacité plénière et substantielle, il fallait donc le répéter. Et c'est pour ça qu'il était répété. Le sacrifice du Christ est plénier, il est le sacrifice du Fils bien-aimé, et donc une fois suffit, en stricte justice, c'est parfaitement vrai. Si donc le sacrifice de la croix était premièrement un sacrifice de justice, on ne comprendrait pas comment, dans sa sagesse, Dieu a voulu le sacrement. Ça ne peut se comprendre que parce que le sacrifice de la croix est premièrement un sacrifice d'amour qui implique la justice, mais il est premièrement un sacrifice d'amour. L'amour réclame la surabondance. Quand vous êtes dans l'ordre de l'amour, vous allez le plus loin possible dans l'ordre de l'amour. C'est toujours la surabondance. Tandis qu'au contraire, la justice, c'est strictement la justice. L'amour demande la surabondance. Alors, si le sacrifice de la croix est un sacrifice d'amour, vous comprenez, selon la sagesse de Dieu, comment il peut y avoir cette loi de surabondance des sacrements. Et les sacrements, c'est une loi de surabondance. Alors, à ce moment-là, vous renversez l'argument et vous comprenez que la vertu de la croix est telle qu'elle nous est manifestée à travers les sacrements qui se redonnent tous les jours. Et dans le monde entier, à chaque instant. Oui. C'est la vertu de la croix. La vertu de la croix n'est pas augmentée par les sacrements, mais la vertu de la croix est comme, comprenez bien, comme canalisée par les sacrements. Je dis bien comme, parce qu'en réalité, c'est la source qui nous est toujours donnée. Il n'y a pas de canalisation de la croix. Mais c'est le mystère de la croix qui nous est toujours donné à travers l'Eucharistie. Et ceci, c'est pour nous faire comprendre la surabondance infini de la croix. Le sacrifice de la croix a une vertu telle dans l'ordre de l'amour, une vertu tellement infinie dans l'ordre de l'amour, qu'elle nous est exprimée par cette surabondance des sacrements. Alors ça, je crois que c'est très important pour nous de le faire comprendre, parce que ça nous aide à saisir ce que représente vraiment le mystère des sacrements, ce langage de Dieu, vous voyez, ce langage particulier de l'amour. Et comment les sacrements sont vraiment les sacrements de l'amour. Et non pas des sacrements qui seraient comme une loi qui continuerait. La loi est au niveau de la justice, mais pas les sacrements. La loi est au niveau de la justice et au niveau de la disposition. C'est ce qui est orienté vers la miséricorde, c'est ce qui est orienté vers l'amour. Tandis qu'au contraire, les sacrements, c'est vraiment la nouvelle alliance de surabondance dans l'amour. Alors, à ce moment-là, on comprend comment ce sacrifice d'amour demande d'être repris, je dis bien repris, en réalité, c'est toujours le même, substantiellement c'est le même, mais il est repris selon un mode particulier, le mode sacramentel. Et ce mode particulier est tout entier tourné vers le mystère de la croix, et en même temps tout entier tourné vers nous. Il joue le rôle d'intermédiaire, de métaxu. Il joue le rôle d'instrumental. Il ne fait pas nombre avec la croix, parce qu'il est tout entier tourné vers la croix. Et cependant, il nous donne la croix. Donc il fait le lien entre le mystère de la croix et nous-mêmes. Le mystère de la croix qui s'est réalisé une fois, c'est bien évident, il s'est réalisé une fois dans le temps, mais dont la valeur est infinie, donc dont la valeur est éternelle. Le sacrifice de la croix, dans ce qu'il a de plus profond, est éternel. Il a quelque chose d'éternel, puisque c'est Jésus lui-même qui s'offre au Père. Et alors, parce que son sacrifice est éternel et qu'il a cette valeur d'éternité, il peut être présent à toute la succession du temps. Et pour nous montrer qu'il est présent à toute la succession du temps, il y a le sacrement qui le manifeste et nous le donne. Ça, c'est l'économie divine. C'est l'économie de la sagesse de Dieu. de nous faire entrer dans ce mystère qui est le mystère par excellence, le mystère du Christ crucifié, notre Rédempteur, celui qui glorifie le Père et nous sauve. Et alors l'Eucharistie sera le sacrifice par excellence de l'Église, parce que le mystère de la rédemption, c'est la source de toute l'Église. Et alors l'Eucharistie est source de toute l'Église, dans la mesure même où l'Eucharistie nous donne le sacrifice de la croix. Dans la mesure même où l'Eucharistie nous fait vivre du mystère de la croix, actuellement, hic et nunc, l'Eucharistie est source de l'Église. L'Église s'en sert, mais l'Eucharistie est source dans le lien avec le mystère de la croix. Donc, c'est ça qui me semble très important à souligner. Alors, il faut comprendre que, puisque les sacrements, c'est des sacrements de la surabondance de l'amour, le sacrement par excellence, ce sera le sacrement qui nous donnera la source de l'amour, qui est le cœur du Christ. Oui, c'est pour ça qu'on a précisé le cœur eucharistique du Christ, pour nous donner la source de l'amour. C'est évident, pour nous, proches de Paris, on est proches de ce que représente le mystère du cœur du Christ, c'est important de regarder le sacrement de l'Eucharistie comme nous aidant divinement, c'est la pédagogie divine, nous aidant à découvrir le Christ comme source de tout amour. L'Eucharistie est vraiment cette pédagogie divine. Et on comprend que c'est le sacrement par excellence, potissimo, parce que justement, sacrement de l'amour, il implique le don. L'amour, c'est le don personnel. Ce n'est pas simplement le don d'une virtus, d'une vertu, d'une efficacité, c'est le don personnel. Et le don personnel d'amour est symbolisé par le point de vue du cœur. Alors, à travers le mystère du pain et du vin, nous pouvons très bien parler du cœur eucharistique du Christ, du cœur blessé, puisque ça nous est donné à travers le point de vue du symbolisme du pain et du vin. Donc, vous voyez, c'est pour essayer de pénétrer toujours plus avant dans ce mystère, qui est notre mystère. Hein. Alors, je vous disais la dernière fois, puisque nous allons continuer progressivement d'entrer dans ce symbolisme et surtout d'entrer dans ce que représente ce mode de présence. Il faut entrer dans ce que représente, si vous voulez, la transsubstantiation. Cette res, le signe et la res, hein, ce mode de présence. Ça nous échappe, hein. Le sacrement est un mystère, c'est sûr. Donc nous ne le comprendrons jamais. Mais nous pouvons essayer de préciser ce qu'est cette modalité sacramentelle sous laquelle Jésus se donne. Pour ne pas tomber dans une chosification du sacrement et ne pas tomber dans une moralisation du sacrement. Les deux échecs, hein, les deux obstacles. Les deux obstacles, hein, consistent à oublier ce mode particulier qui est un mode sacramentel dont je vous ai dit, pour nous, intentionnalité divine. Je crois que c'est intéressant. Intentionnalité divine. C'est une intentionnalité divine qui nous est donnée. Le corps du Christ nous est donné à travers cette intentionnalité divine. Intentionnalité qui implique le point de vue du signe et le point de vue de la réalité, les deux. Et les deux inséparablement unis. Hein. Faut pas les séparer, les deux sont inséparablement unis. Donc, une intentionnalité divine, c'est-à-dire que le mode sacramentel est toujours en référence avec le sacrifice de la croix, toujours en référence. Le sacrement de l'Eucharistie prend toute son intelligibilité du mystère de la croix. Il est en référence essentielle. Exactement, c'est pour ça que je dis intentionnalité. C'est quelque chose de second. C'est pas premier. C'est mystère du mystère, si vous voulez, pour bien comprendre. Il y a le mystère de la croix, il y a le mystère du mystère. Et le mystère du mystère, c'est justement l'Eucharistie, qui est le mystère du mystère de la croix. Donc, tout entier tourné vers le mystère de la croix, n'ajoutant rien à la croix, mais pour nous, nous donnant la croix. Nous donnant le sacrifice de la croix. C'est ça qu'il faut saisir hein, dans la foi. Donc il faut saisir comment le signe va être relatif au mystère de la croix et la res est également le don. C'est pas simplement, voyez, un mémorial. C'est là la fameuse question. Là aussi, on va être avec Luther et on va être avec Calvin. Il faut entrer dans cette précision que l'Église a donnée face à Luther et à Calvin. Pour Luther et Calvin, c'est un mémorial. C'est-à-dire, c'est une cérémonie liturgique. On commémore le souvenir. Ceux qui ont été à Jérusalem, ça, la petite lampe du souvenir. C'est très beau, du reste. La petite lampe du souvenir. La petite lampe du souvenir qui rappelle tous ceux qui ont été sacrifiés, tous ceux qui ont été immolés. La petite lampe du souvenir. Ça, c'est un mémorial. Le peuple d'Israël a très fort le sens du mémorial. Hein. Il ne faut pas l'oublier, puisque c'est dit avec force lorsqu'on célébrait la Pâque. Et la Pâque était le mémorial qui redonnait la présence, en quelque sorte, de ce qui s'était passé. Le passage de Dieu. Donc, le mémorial du passage de Dieu, ou du sceau de Dieu, puisque la Pâque, ça peut signifier aussi bien le passage que le sceau. Vous savez bien, parce que de fait, l'ange exterminateur, il sautait certaines portes. Hein. Alors, il ne faut pas l'oublier. Alors, le passage est le sceau de Dieu par rapport aux portes qui étaient marquées par le sang de l'agneau qui était épargné. Alors, ce mémorial de l'Ancien Testament était d'ordre purement symbolique, comme tous les sacrements de l'Ancienne Loi. C'est d'ordre purement symbolique, c'est-à-dire d'ordre de l'éducation. N'oubliez pas ce que le Seigneur a fait pour vous. Et tous les psaumes sont faits pour qu'on n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour nous. On est là pour reconnaître la miséricorde de Dieu et la présence de Dieu. Donc c'est de l'ordre du mémorial. Le théâtre est de l'ordre du mémorial. On revit, c'est du vécu intentionnel. Vous voyez comment la phénoménologie est de l'ordre du mémorial. C'est du vécu. Et on fait vivre avec la plus grande intensité possible. Mais c'est toujours du mémorial. C'est pour qu'on n'oublie pas, étant donné la fragilité de l'homme et que l'homme risque d'oublier. Alors le mémorial, c'est qu'il y a une présence. Il y a bien une présence. Hein, faut pas l'oublier. Il y a une présence vécue, mais d'ordre intentionnel. Et uniquement d'ordre intentionnel. C'est que quelque chose, c'est très important de se rappeler ça, parce que vous voyez comment, dans une perspective de philosophie purement phénoménologique, on ne peut plus voir la distinction entre le mémorial intentionnel et le mémorial qui implique une présence réelle. Et ça, je crois que c'est très important, toute la question est là pour moi. Vous voyez, quand de fait, le père Schibelex, pendant pendant le concile, a voulu dire « laissons tomber la transsubstantiation et prenons transsignification et transfinalité », comme il est dans une perspective phénoménologique, on comprend très bien. Les deux choses importantes à saisir, c'est uniquement le point de vue de l'intentionnalité. Il n'y a plus à saisir le point de vue ontologique. Le point de vue ontologique échappe. Alors, on est uniquement dans cette perspective-là. C'est toujours très important, quand on est en face de quelqu'un qui objecte, de savoir ad modum recipientis. Connaissez le mode du récipient. Hein. Connaissez qu'est son intelligence. Est-ce qu'il a une intelligence réaliste ou est-ce qu'il reste uniquement dans l'intentionnalité? Parce que celui qui est purement dans l'intentionnalité, vous aurez beau dire indéfiniment qu'on ne voit jamais. L'erreur provient du point de vue philosophique, comme toujours. Les erreurs théologiques d'aujourd'hui, comme les erreurs d'exégèse, proviennent toujours de fausses philosophies. C'est à partir de ces fausses philosophies que le point de vue, le problème de la parole de Dieu, le réalisme de la parole de Dieu n'est plus vécu. Et on ne voit plus le réalisme de la parole de Dieu. On reste alors uniquement dans ce mode intentionnel. C'est pour ça que c'est si important de saisir ce que c'est que l'intentionnalité. C'est
si important de saisir ce que c'est que l'intentionnalité. L'intentionnalité du côté intellectuel et du côté affectif. De bien saisir ça. Alors, je dis bien intentionnalité divine. Vous voyez, c'est ça qui me semble important à saisir. Intentionnalité divine. C'est une intentionnalité en ce sens que la présence de Jésus par les paroles de la consécration, par les paroles de Jésus, cette présence de Jésus par mode de substance, et le sacrifice réalisé à travers la consécration du pain et du vin, ce sacrifice est un sacrifice au niveau sacramentel. Il est réel, mais il n'est pas physique. Il est d'un autre ordre. Il est selon un mode intentionnel, donc c'est-à-dire tout entier relatif au sacrifice de la croix. Tout entier ordonné au sacrifice de la croix. Il n'ajoute rien au sacrifice de la croix. Mais pour nous, il nous donne le sacrifice de la croix. Il est un sacrement qui nous donne le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix nous est donné à travers ce métaxus divin, cette médiation divine que sont les sacrements. Dieu a choisi cette médiation, on essaiera de comprendre pourquoi après, parce que c'est intéressant de comprendre autant qu'on le peut la pédagogie de Dieu, pour essayer de faire la même chose, parce qu'au fond c'est Dieu qui nous en donne l'exemple, il a voulu inventer les sacrements. Et les sacrements montrent toute la différence qui existe entre la pédagogie de Dieu dans le Nouvel Alliance et la pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament. La pédagogie de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est uniquement la parole. La pédagogie de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est les sacrements. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de prendre uniquement une pédagogie de la parole. Oui, chair vivante. C'est la pédagogie de la parole. Et ce n'est pas la pédagogie des sacrements. Et c'est dans ce sens-là qu'on sent très bien qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est capital, puisqu'au fond. Alors jusque-là, vous voyez, on le vivait. Les chrétiens vivaient sans très bien, on préparait au sacrement, on préparait. Aujourd'hui, on est obligé d'être beaucoup plus attentif. Pourquoi ? Parce qu'on est en face d'une philosophie de l'intentionnalité qui se coupe de l'ontologie. Et c'est ça la crise, hein, si on essaie de la saisir au point de vue philosophique. C'est ça le point de vue de la crise, c'est ça le point de vue qui montre combien on est en présence actuellement de quelque chose auquel on doit être beaucoup plus attentif qu'avant. Et donc beaucoup plus dans nos affirmations, être plus attentif à ce qu'on dit. Alors, intentionnalité, parce que tout entier ordonné au sacrifice de la croix. Donc ça ne peut pas se comprendre par lui-même. Le sacrement ne peut pas se comprendre par lui-même. Mais le charisme ne peut pas se comprendre par lui-même. Il ne se comprend que en référence au Christ. En référence au sacrifice du Christ. En référence et en même temps nous le donnant. C'est ça qui est merveilleux. Il n'ajoute rien, mais pour nous il ajoute quelque chose. Et pour Marie, il ajoutait quelque chose. Bien que Marie ait été présente à la croix, Marie a eu besoin de l'Eucharistie pour vivre plus de la croix. Et pour mieux comprendre le sacrifice de la croix. Le sacrement nous éduque. Il nous éduque, c'est-à-dire qu'il nous aide à comprendre ce qu'est le sacrifice du Christ. Il nous aide à le comprendre, puisque c'est un signe. Il nous aide à en vivre, puisqu'il nous le communique. De façon réelle. Donc, même Marie avait besoin du sacrement de l'Eucharistie, bien du sacrement de l'Eucharistie, pour vivre davantage de la croix. Bien qu'elle ait vécu le mystère de la croix avec une plénitude de foi, d'espérance et d'amour, elle avait besoin encore de cette surabondance qui est le sacrement de l'Eucharistie, pour entrer plus ardent. Alors, c'est ça qui est important de se dire qu'apporte le sacrement par rapport à la croix. Qu'apporte cette pédagogie de Dieu. Ce mémorial n'est pas simplement un mémorial qui empêche l'oubli, mais c'est un mémorial qui nous donne la réalité et qui nous fait vivre de cette réalité et qui nous permet d'entrer. Normalement, le mémorial est une simple répétition. L'Eucharistie n'est pas une répétition de la croix. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas une répétition de la croix. Ce n'est pas une copie de la croix, elle serait très mauvaise comme copie, n'est-ce pas, et comme répétition. C'est justement quelque chose de tout autre pour nous faire entrer dans le sacrement. et pour nous aider à entrer dans le mystère même de la croix. Alors vous comprenez, ce qu'apporte l'Eucharistie, c'est que c'est donné par mode d'aliment. La croix ne nous est pas donnée par mode d'aliment. Mais la croix contient le mode d'aliment. Et c'est ça qui est extraordinaire. Puisque la croix contient en source, virtuellement, intentionnellement, la croix contient le sacrement de l'Eucharistie. Puisque l'Eucharistie vient de la croix. Donc la croix le contient. Et l'Eucharistie va apporter pour nous cette intelligence nouvelle au cette intelligence nouvelle du sacrifice. C'est que nous comprenons que par la croix, le sacrifice du Christ est tel, il est tellement donné à Dieu, au Père, il est tellement offert au Père, puisqu'il est offert dans un amour substantiel et infini, il est tellement donné au Père et tellement donné à nous qu'il est notre pain. Comme il est le pain du Père, il est notre pain. Et ça, c'est la croix qui nous fait comprendre ce don absolu. Il est donné comme pain, c'est-à-dire comme aliment. C'est-à-dire en ne gardant rien pour lui. C'est le propre du don. Mais quand on se donne partiellement, on ne se donne pas. Parce que l'amour réclame la totalité du don. Quand il s'agit d'un amour personnel. Eh bien, l'Eucharistie nous fait comprendre que le Christ est donné de cette manière telle qu'il ne garde rien pour lui. Il est donné par mode d'aliment, par mode de pain et de vin. Et alors, le symbolisme du pain et du vin nous fait encore comprendre comment ce don est un don qui nous est donné comme le don le plus nécessaire qu'il soit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le pain. Et le point de vue du vin, pour nous montrer que le vin qui enivre, que le don de Jésus comme vin nous fait comprendre cette modalité particulière de l'amour qui nous permet de nous dépasser, de ne plus vivre à un niveau d'homme, mais de vivre à un niveau d'enfant de Dieu. Puisque le propre de l'ivresse, c'est de dépasser ce qui est raisonnable et d'entrer dans un autre mode particulier. Et alors le vin nous est montré de cette manière-là, le symbolisme du vin, pour nous faire comprendre que de fait, il nous transforme en lui. Et alors, nous transformant en lui, nous permet de regarder tout dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que le sacrement nous aide à entrer plus avant dans le mystère de la croix, du sacrifice de la croix. Alors, vous voyez comment on peut dire intentionnalité divine. Pourquoi ? Parce que le mémorial n'est pas simplement un mémorial au niveau de l'intelligibilité, c'est un mémorial qui implique la res. Signe maîtresse. Ce mémorial, cette intentionnalité divine implique le réel. Vous voyez comme c'est curieux. Hein? Vous allez tout de suite saisir. Quand dans la philosophie, qui commence par l'intentionnalité, on veut rejoindre absolument le réel. Ceci n'est vrai qu'au niveau du sacrement. Donc au niveau du vin. Seule l'intentionnalité divine peut être substantielle. Et l'intentionnalité humaine n'est jamais substantielle. Mais une fois de plus, on voit que notre philosophie est une philosophie qui dépend de la théologie. Et qu'on oublie et qu'on laïcise. Et je crois que ça fait comprendre justement ce qu'il y a de si particulier dans cette perspective propre, si vous voulez, de la philosophie husserlienne, de la philosophie de Marc Scheller. Ils essaient, à travers l'intentionnalité, de trouver le réel. C'est vrai au niveau de l'intentionnalité des sacrements. Tout ça, c'est bouleversant, moi, parce que ça fait comprendre, vous voyez, comment ils ont oublié la foi. Ils l'ont mise entre parenthèses. Et ils désirent garder le contact avec le réel. On ne peut pas passer de l'intentionnel au réel, sauf quand il s'agit d'une intentionnalité divine, celle des sacrements. Alors cette intentionnalité divine implique le caractère substantiel de la réalité et implique le point de vue divin de la réalité.